RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, la radio et la télé pour les GG. Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de discussion. C'est presque psychologique, les grandes gueules. C'est presque une thérapie. Bonjour Stéphane Manigold, restaurateur à Paris. Bonjour.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Ben moi, tu vois, je suis venu pour ma thérapie du Sud.
Ouais.
En m'énervant hier avec l'aéroport de Toulon. Heureusement qu'il y a un super aéroport à Nice, parce que l'avion est annulé. Et donc j'avais une heure et demie globalement pour faire Toulon-Nice. Donc me voilà
en thérapie aujourd'hui.
En pleine thérapie.
Avec les GG. Nous sommes avec Kaouter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère. Bonjour Kaouter.
Bonjour à vous tous et bonjour à la France.
Nous sommes avec Elina Dumont, intervenante sociale. Bonjour ma chère Elina.
Alors bonjour à tous. Et moi concernant la thérapie, j'ai plus de 40 ans de thérapie. Donc c'est bon.
Et puis tu en as une parallèle avec les GG,
voilà,
aussi.
J'entretiens avec les grandes gueules.
Mais je dis que c'est presque une thérapie parce qu'on se dit les choses avec conviction, oui. On se dit la vérité. Il y a des moments de vérité, il y a des moments vécus, des moments d'émotion aussi, comme on l'a eu hier dans les GG, dans les grandes gueules, en parlant du pouvoir d'achat, des prix et de la difficulté au quotidien, effectivement, avec Aurore. Aujourd'hui, on va encore se dire les choses dans les grandes gueules tout à l'heure à 10h avec cette tribune des sénateurs sur le cannabis. Ils sont 31 sénateurs socialistes. Ils disent alors, on y va ou pas? On présente une proposition de loi pour légaliser le cannabis, faire en sorte qu'aujourd'hui, on sorte de ce trafic et qu'on passe peut-être à une étape comme l'a fait d'ores et déjà, comme l'ont fait des pays comme le Canada, comme des États américains. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ou partie des Pays-Bas? 32-16 pour en parler tout à l'heure avec les GG à 10h. Notre premier sujet de discussion, c'est ce qui se passe en Gironde. Aujourd'hui, on se rend compte que on est peut-être face à ces feux qui arrivent partout en France. On est peut-être en deçà au niveau des moyens de lutte. Est-ce qu'on doit les adapter? Est-ce qu'on a vraiment les moyens de lutter contre les incendies? 32-16 pour en parler avec les GG. Surtout si vous êtes en ce moment face aux flammes, face aux feux, face aux fumées du côté de la Gironde.
RMC, les grandes gueules.
J'avais le feu au fond de mon jardin, en fait, donc je ne sais pas où ça en est. On a peur pour nos biens, on a peur pour nos animaux.
Bon, on a repris la vie normalement. Depuis hier, ben, c'est devenu plus stressant, quoi. C'est un peu angoissant. Et puis c'est désolant, surtout pour la nature. Il y a des animaux qui sont en train de mourir. On a une forêt qui est assez importante. On perd tout ça, quoi.
Oui, ce sont ces habitants qui regardent atterrés ce qui est en train de se passer chez eux. On a 6800 hectares de forêts qui ont brûlé, qui ont entraîné l'évacuation de 10 000 personnes. Le feu continue sa progression. On est sur les secteurs de Ostens, Saint-Magne, Belin-Bélier, non loin du département des Landes. C'est ce qu'on appelle un feu majeur, plus virulent, plus rapide qu'à ses débuts il y a un mois. Parce que c'est le même feu qu'il y a un mois. En fait, c'est un feu qui couvait sous la tour. Vous savez, c'est exactement l'image du barbecue. Vous avez fini votre barbecue, vous n'avez plus que de la cendre. Braise. Et en fait, sous la cendre, il y a encore des braises. Et si on ne fait pas attention, eh bien, ça repart. C'est comme quand on passe un sèche-cheveux dessus. Eh bien, là, ce feu qui couvait sous la tourbe, eh bien, avec la chaleur, avec le vent, le feu était juste fixé. Les pompiers étaient encore en train de l'éteindre. Mais la sécheresse et le vent ont fait qu'il est reparti. Et avec toute la végétation qu'il y a autour, il a retrouvé du combustible. En fait, on a 8 feux importants aujourd'hui en France. On a la Gironde, la Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron, la Lozère, sans compter tous les départs de feux plus petits chaque jour, du nord au sud. Et un pompier me disait hier, en fait, on en a plus de 200 par jour de départs de feux. 50 000 hectares qui ont brûlé en France. Le record, c'est 75 000 en 1989. Et on a 21 avions, soit 5 de moins qu'en 2017. Et on a des hommes en moins aussi au niveau des pompiers. Donc, aujourd'hui, on est en train de se dire que bah, finalement, on n'a peut-être pas vraiment les moyens de lutter contre ces incendies. 32-16 pour en parler avec les GG. Vous pouvez témoigner si vous êtes sur les lieux de ces feux. On vous attend en direct. Qu'est-ce qu'on doit faire, Stéphane Manigold?
Moi, déjà, j'ai une pensée à nos soldats du feu qui luttent terriblement face à ces incendies. J'écoutais ce matin le capitaine des pompiers qui indiquait qu'ils en avaient jusqu'en octobre. J'ai appelé hier mes confrères professionnels du loisir. Il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place. Les agriculteurs, faut témoigner. Ils sont vraiment tous solidaires. Et j'ai moi-même relayé hier l'appel du ministre Darmanin qui demandait aux entreprises de libérer les pompiers volontaires. Et ben moi, j'appelle mes confrères. Si vous avez des salariés qui sont des pompiers volontaires, eh bien, il faut les aider. Octobre, c'est loin. C'est un drame écologique, évidemment, terrible. Mmh. C'est plusieurs fois la ville de Paris qui disparaît en termes de végétation. Et à l'heure où on parle des dérèglements climatiques, la forêt, c'est quand même le poumon de ce qui nous permet aujourd'hui de respirer. Eh bien, face à ce drame, il faut en tenir compte. Mais j'oublie pas aussi les habitants, les sinistrés, et puis mes confrères qui ont vu leur outil de production partir en fumée. Ouais. Les 5 campings ont été balayés. Tous ces salariés qui sont aujourd'hui au chômage, tous ces touristes qui étaient venus massivement. C'est les campings, les Français, ils sont attachés. Il y en a 5 qui ont été balayés. C'est le poumon économique de l'Aquitaine qui est en train de s'essouffler. Et donc, voilà, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, quoi? Et à part la pluie et au fond, la solidarité et libérer les salariés potentiels, malheureusement, on subit.
Kaouter Ben Mohamed.
Ok, les campings, moi, aucun souci, mais un camping, ça se reconstruit, sauf que l'écosystème ne se reconstruira pas de sitôt. Il va falloir des décennies. Et je ne suis pas sûre que toutes les espèces fragiles qui vivent dans ces forêts-là ne soient pas, pour certaines peut-être, je ne suis pas une spécialiste, mais peut-être éteintes à tout jamais. Mmh. Il y a quand même un drame qui se joue et moi je crois qu'on n'est pas du tout préparé. Ça fait, tu vois, moi je suis assez surprise, moi je ne suis pas une spécialiste de l'écologie de l'environnement, mais il y a des tas de sommets, de GIEC, de ci. Donc tout ça est quelque part prévisible. On sait qu'avec le réchauffement climatique, la hausse des températures et tout ça, qu'il va y avoir de plus en plus de feux et on l'a vécu en France et ailleurs, même l'année dernière, en Sardaigne, en Grèce, en Algérie. On n'est pas préparé. Tu vois, tu nous as indiqué qu'on avait 5 avions de moins qu'en 2017.
Oui, on a 21 avions aujourd'hui, 5 de moins.
Alors, le président de la République. L'étranger.
Oui, mais l'étranger, d'ailleurs, qui a du mal à les prêter quand lui-même,
oui,
il est en.
Exactement.
Oui, mais
à
l'étranger, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Mais l'Italie ne peut pas nous les prêter, par exemple, parce qu'ils en ont besoin eux-mêmes.
Ça reste l'étranger. Il faut arrêter. D'accord, oui, on est un consortium de pays qui sont solidaires, mais c'est d'abord eux. D'ailleurs, ils les gardent pour eux d'abord. C'est l'étranger, c'est pas notre économie, c'est pas nous qui les payons. D'accord? Non, mais Stéphane, c'est important, regarde.
Si l'Europe, à un moment, peut avoir une utilité face à ces drames.
C'est fou. Comme dans cette émission, on me dit toujours que je gueule, mais je gueule parce que toujours on m'interrompt. Donc, Elina, voilà. Donc, je vous écoute attentivement, écoutez-moi attentivement. C'est l'Europe, c'est un consortium, mais qu'à un moment donné, excusez-moi, quand il y a un problème, excusez-moi cette expression populaire, chacun sa mère. Et on le voit là. Donc, l'Italie garde ses avions. La Grèce garde ses avions.
Non, c'est pas qu'ils veulent les garder, c'est qu'ils
eux, ils sont obligés. Ils sont obligés parce qu'eux-mêmes, ils sont en danger, d'accord? Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on s'équipe, qu'on renforce nos équipes humaines et qu'on renforce aussi le matériel à disposition de nos soldats du feu qui sont déjà épuisés. Je remercie effectivement toutes les forces vives qui peuvent. Le pompier dont tu parlais, je l'ai écouté avec toi hier, je crois, avant-hier, qui disait quand même qu'on peut pas non plus lancer des civils comme ça à la bataille du feu. Ils vont juste éteindre quand il y a des petits
départs. Aujourd'hui, c'est pas le dérèglement climatique. T'as une camionnette qui a pris feu et potentiellement quelqu'un qui a mis le feu. Donc, le dérèglement climatique, là-dedans, il a rien à voir.
Je dis pas qu'il a rien à voir. Je dis que tout ça est prévisible.
Il a du combustible.
Et qu'à un moment donné, gouverner, c'est prévoir. Et que ce qui me rend malheureuse concernant ce dossier, c'est que la nature ne peut pas se protéger, c'est à nous de la protéger.
Alors attends, Elina, parce que nous sommes avec.
Je suis pas pressé.
Une seconde, on est avec Grégory Allione, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour, monsieur Allione.
Bonjour. Oui, bonjour.
C'est terrible, là, aujourd'hui, ce à quoi vous faites face, j'allais dire presque partout en France. Est-ce que nous sommes aujourd'hui, face à ce défi, vraiment bien équipés ou pas?
Je crois que la France est bien équipée, même si il y a du retard par endroit à rattraper. La France a une difficulté aujourd'hui, et je suis totalement d'accord avec vos collègues qui sont autour de la table en disant « ça fait longtemps qu'on nous le dit, ça fait longtemps qu'on nous prévient ». Pour autant, la France se prépare petit à petit. C'est pas pour rien que depuis 2 ans, il y a des dispositifs dans le nord de la France pour accueillir des avions bombardiers d'eau. C'est pas pour rien que la France loue depuis 2 ans des hélicoptères bombardiers d'eau, ce qui est une innovation dans le sens où jusqu'à présent on n'avait que des avions. Pourquoi des hélicoptères? Parce que cela permet de prendre dans des lacs et plus seulement des canadaires qui étaient les avions prédestinés à l'arc méditerranéen pour écoper dans la mer. Donc oui, il y a une prise en compte de l'évolution. La seule chose qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si vous aviez mis un bouton en passant de 0 à 1 et où on allume le feu de partout sur le territoire métropolitain. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très brutal. On s'attendait à avoir un réchauffement climatique avec des effets à 2025-2030. Et là, on est du jour au lendemain confronté à ce que nous allons visiblement être confrontés au cours des années prochaines.
Oui, mais alors du coup, Grégory Allione, on se dit les choses clairement. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter en urgence. J'écoutais ce que disent certains pompiers et certains représentants syndicaux. Selon eux, il faut 14 000 pompiers de métier supplémentaires aujourd'hui pour mailler le territoire et avoir des forces d'intervention efficaces. Donc là, il y a une urgence de recrutement et de formation.
Enfin, à un moment donné, le réchauffement climatique a tourné le bouton de 0 à 1.
Trop vite.
Il faut une prise de conscience avec des réactions immédiates pour traiter premièrement la saison 2022 à laquelle on fait face. Ça, c'est le premier élément. C'est le sujet de la mobilisation générale. Nos organisations syndicales, comme nous, nous pensons qu'il faut recruter des pompiers professionnels et faire en sorte que cette épine dorsale de la sécurité civile soit armée pour le quotidien comme pour l'exceptionnel en ce moment. Il faut que nous ayons des pompiers volontaires recrutés en masse. Et ça, ça se prépare effectivement. Ça peut pas se tourner comme un interrupteur. C'est quelque chose qui va prendre des mois. Nous avons demandé au gouvernement d'accélérer, de faire accélérer dans le département, parce qu'il faut savoir quand même que ce sont les départements et les communes qui financent les services départementaux d'incendie et de secours, donc de recruter tous les collègues qui ont réussi les concours en matière de sapeurs-pompiers professionnels. Nous, la Fédération nationale, nous appelons à recruter tous les pompiers professionnels qui ont réussi le concours, tous les pompiers, pardon, qui sont sur liste d'aptitude, et ensuite de lancer des plans de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Et ce qui est intéressant, en réaction immédiate, c'est la mobilisation générale. Hier, ce qui a été dit, c'est important, c'est-à-dire qu'en ce moment, l'État français cherche à requérir des moyens européens pour venir, et il y a des pays qui vont pouvoir nous aider, comme nous avons aidé les pays dans des saisons précédentes. Il y a des personnels à pied qui vont venir nous renforcer, mais c'est aussi la mobilisation générale du volontariat, parce que chaque fois que nous sommes sur des événements dramatiques en France, c'est le volontariat qui permet de répondre à cette sollicitation exceptionnelle, c'est la montée en puissance possible, et cet appel à la mobilisation générale est très important pour nous.
Oui, mais vous les avez, ces volontaires, ou pas ?
Il y a 198 000 pompiers volontaires en France.
Oui. Ils sont tous, mais qui sont pas tous disponibles au même moment, quoi. Non.
C'est la raison pour laquelle, raison pour laquelle l'appel à la mobilisation générale fait en sorte que le monde de l'entreprise, le monde de l'emploi public permette de libérer des pompiers formés, mais que ce soit au feu de forêt ou au secours d'urgence aux personnes, parce que on parle des feux en ce moment, mais la crise des urgences que connaissent les urgences a une répercussion sur notre activité, parce que 80% de l'activité, je vais le modéliser en disant, c'est de l'ambulance. On apporte assistance à la détresse de nos concitoyens.
Service donc, à la personne.
On a deux actions concomitantes à conduire. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération nationale appelle à recruter tous les pompiers professionnels qui sont sur les aptitudes et faire en sorte d'accélérer le mouvement pour arriver en 2027 à 250 000 pompiers volontaires. Aujourd'hui, la sollicitation à laquelle on fait face, on ne pourra pas l'atteindre avec les effectifs et les matériels que l'on a. Il va falloir accélérer le mouvement d'équipement et de recrutement.
L'indemnisation, c'est 8 euros de l'heure pour les pompiers volontaires ?
Vous savez, le sujet de l'indemnité, c'est pas un sujet tabou. Il faut considérer le pompier volontaire.
Franchement, pompier, je suis payé 8 euros, je m'en fous, j'y vais. Hein.
Oui, mais allez-y,
voilà, c'est comme ça, moi je suis très...
Le leitmotiv du pompier, c'est pas l'indemnité, même si l'indemnité fait partie de la reconnaissance que l'on lui attribue. Mais l'indemnité n'est pas imposable, n'est pas saisissable, donc il y a d'autres éléments qui sont positifs sur cette indemnité.
Non, mais excusez-moi.
Bon, attends, ça y est, tu as recommencé.
Non, mais c'est pas parce que...
Parlez un peu, parce que moi je n'ai encore rien dit.
C'est pas parce que ces gens sont complètement dévoués aux Français, à la nature, au sauvetage, quel qu'il soit, qu'il faut ne pas les payer et valoriser leur travail.
Écoute, moi, je n'ai pas le même état d'esprit. Moi, je suis une femme très...
Attendez, allez-y, M. Allione, allez-y, puis je te donne la parole, Lina. Allez-y, M. Allione, pardon.
Je vais intervenir. Vous avez raison, dans l'absolu. Mais ce n'est pas une question de rémunération, c'est de l'indemnisation. L'indemnisation, c'est tout autre chose. On est sur la considération de quelqu'un qui vient donner de son temps pour la nation. Par contre, le sujet de l'indemnisation, il faut la réviser. Les départements de France en ont pris conscience. François Sauvadet, qui est le président des départements de France, sait qu'il faut réviser, augmenter l'indemnité de sapeurs-pompiers volontaires, mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est les considérer. Et vous allez entendre ce que je vais vous dire. Il faut les considérer comment ? En les reconnaissant régulièrement, et le président de la République s'est engagé en les reconnaissant dans le cadre des ordres nationaux, notamment. De nombreuses personnes ont droit à la Légion d'honneur, ont droit à l'ordre national du mérite. Les pompiers, il faut quémander pour que l'on ait cet ordre-là. C'est peut-être pas grand-chose.
On peut faire une pétition citoyenne pour que vous l'ayez.
Deuxième élément, le dernier élément, il est très important. C'est la reconnaissance dans le cadre de la prestation de fidélité et de reconnaissance, une forme de retraite du pompier volontaire. Pourquoi je dis cela ? Parce que nos pompiers, lorsqu'ils accèdent à leur retraite professionnelle, lorsque vous avez une reconnaissance de l'engagement citoyen avec entre 2 000 et 3 000 euros possibles en termes de prestations, C'est cela qu'on nous demande. On demande une amélioration de la prestation de fidélité de reconnaissance pour que demain matin, un pompier volontaire qui aura peut-être entre 1000 et 2000 euros de retraite selon qu'il est cadre ou pas, qu'il puisse peut-être bénéficier, parce qu'il a été pompier volontaire, de 300 euros de plus par mois. Et c'est ce que l'on demande.
Merci, monsieur Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Je te donne la parole dans un instant, Elina. Vous voyez,
on va y arriver.
Ouais.
On va y arriver.
Non, mais c'est important de poser le cadre et de comprendre le défi. Ah, ouais. Parce que le défi, il est matériel. Oui, on voit bien qu'on manque de matériel. Mais il est humain. Parce que avant que les avions n'interviennent, qui vient le
d'ailleurs,
premier sur les lieux? Qui vient sauver? Qui vient regarder? Qui...
Bah, combien dure la formation? Tu le sais?
Non.
Tu vois, c'est ce que je voulais poser comme question à M. Allion.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à avoir... Alors, les pompiers volontaires, c'est très bien, mais mettre
Alain,
en place
chiffres,
une véritable armée de pompiers professionnels...
Alain, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jusqu'en 2016, c'était 5000 hectares qui brûlaient par an. Aujourd'hui, depuis 2016, nous sommes passés à plus de 30 000.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a fait x6, x7.
Et là, on est à 50 000 déjà depuis le début de l'été.
Et ouais. On est déjà à 50 000. Donc, tu vois bien que la moyenne depuis 2016 était à 5 000 hectares. On est passé à plus de 30 000. Les effectifs aujourd'hui ne suffisent pas.
Eh bien, on va continuer
les renforcer.
D'en parler. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de lutter aujourd'hui contre ces incendies avec Elina Dumont, Kaouter Ben Mohamed, avec Stéphane Manigold, avec vous au 32-16 en instant. Hein, Sylvain, il nous appelle de Gironde, justement. Il est élu local. Et vous savez, il y a l'appel de Gérald Darmanin à ce que les entreprises libèrent les relais volontaires et il veut
et
en parler.
Tous les syndicats
en
relais le message.
Allez, à tout de suite avec les GG en direct sur RMC. RMC Story, il est
9h20. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, dans les grandes gueules avec Stéphane Manigold, restaurateur, Kaouter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère, et l'intervenante sociale Elina Dumont. On parle de ces feux partout en France aujourd'hui. Et face à ces feux, est-ce qu'on a tous les moyens de lutter aujourd'hui, oui ou non? 32-16 pour en parler avec les GG. Elina
Dumont.
Oui.
Alors, je voulais te dire, Alain, hier, moi, tu sais, je t'ai suivi avec beaucoup d'attention parce que toute la journée, évidemment, je travaille. Et franchement, j'ai cru voir ce village canadien qui a brûlé. Tu te rappelles? Et quand j'ai entendu toutes les explications que tout le monde donnait pendant ton émission.
Sur BFM TV, tu veux dire.
Oui, sur BFM TV, excuse-moi.
Avec ces images de l'incendie qui avançait.
Je me dis, déjà, j'ai découvert un truc. Apparemment, il y a une nouvelle technique qui s'appelle le retour de flamme, qui est une nouvelle technique qui existe depuis peu de temps. Tu t'as bien entendu hier, comme moi.
Non, en fait, les retours.
Si, c'est une nouvelle technique.
Non, ce sont ce qu'on appelle les brûlages techniques, c'est-à-dire où on met le feu pour couper les incendies.
Tu lis dans Libération, ils vont t'expliquer par A plus B que c'est une nouvelle technique qui existe depuis quelques années, qui marche très bien dans d'autres pays. Et moi, je me dis qu'avec le réchauffement climatique, la fréquence des feux va augmenter. Bon, d'accord, faut pas parler matériel, mais faut aller à fond aussi dans la prévention, quoi. Le débroussaillage, même que les citoyens aient même des couvertures anti-feu. Enfin, il faut aller à fond là-dedans, parce que de la prévention incendie, il n'y en a pas tant que ça. Hein.
Non, on n'est qu'à 30% au niveau du débroussaillage, 30% de ce qui devrait être fait aujourd'hui. La plupart des forêts, on a 11 millions de mètres carrés, de kilomètres carrés de forêts en France, si tu veux, qu'il faut entretenir. Et là encore, on a un déficit d'agents national des eaux et forêts qui s'occupaient avant justement de ce travail de surveillance
et
de l'ONF et du travail. Et on est en deçà des effectifs. Et on a des suppressions de postes qui sont prévues d'ici 2025.
Et je voudrais juste rajouter quelque chose, s'il te plaît. Kaouter, je vais juste répondre à toi. Je vais te dire un truc. Moi, la seule canicule que j'ai connue, j'étais gamine et ça m'a marqué, je vais avoir 8-9 ans, c'était en 1976. La forêt de Belém, qui est dans l'Orne, elle avait entièrement brûlé. Mais sache qu'aujourd'hui, en 2022, elle est ressuscitée.
Ouais,
donc ça veut dire que...
Combien d'années?
Ouais, mais ça prend des années et des années, bien sûr.
Ah ben, je dis pas
c'est
le contraire.
Ouais, bien sûr.
Mais il y a des animaux, moi je vais occasionnellement, les animaux sont à nouveau là, enfin... Voilà, c'est pas, mais ça met des années. Je suis d'accord avec toi.
Excuse-moi, mais moi, je préfère que ça brûle pas et que les animaux soient là. Et
c'est évident.
On mette pas 35 ans ou 45 ans à récupérer une forêt et trois espèces sur 300. Enfin, voilà, il y a ça aussi.
Tu rajoutes à ce que tu disais, Alain, une complexité supplémentaire au-delà des moyens de l'État. Tu as une multitude de propriétaires sur ces terrains à Bordeaux. Oui. Et ils sont plus de 200 qui sont propriétaires des forêts. Alors, moi, j'ai découvert, si tu veux, que que des particuliers peuvent être propriétaires de forêts. Moi, déjà, c'est quelque chose qui m'échappe. Je me dis, mais c'est comment tu peux être propriétaire d'une forêt? Au fond, c'est un bien commun.
À charge
c'est
à toi de l'entretenir aujourd'hui. D'ailleurs, la majorité des forêts françaises sont des propriétés privées.
Mais ça monte ses limites.
Il y a des injonctions de débroussaillement avec de débroussaillage avec des amendes que tu dois payer normalement aussi.
Oui, mais tu vois, on voit les limites de l'exercice. La forêt, c'est le poumon, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vivre. On le voit bien. Avec le réchauffement, on parle de mieux végétaliser les centres-villes pour qu'on respire mieux, pour qu'on crée des zones d'ombre, pour que nos enfants dans les écoles, on a supprimé des arbres, qu'on en remette de façon à ce qu'ils puissent être respirer. À l'ombre et mieux respirer. Et puis là, on laisse quelque
alors,
chose
attends,
qui est indispensable.
Sylvain qui nous appelle de Gironde. Bonjour Sylvain.
Bonjour les grandes gueules.
Bonjour. Est-ce qu'on
bonjour
a
Sylvain.
Tous les moyens efficaces pour lutter contre les incendies aujourd'hui?
Alors je ne sais pas si on a tous les moyens efficaces. En tout cas, moi j'entends ce que dit le président anglais. Je connais un petit peu, puisque je suis un ancien élu local. Le constat, c'est que la loi de 2002 dit que c'est les départements qui financent les pompiers, les services de secours, et qui est calculé sur le nombre d'habitants de la population de 2002. En Gironde, on en a pris 400 000 habitants de plus. Les moyens qui sont déployés et mis auprès du SDIS sont les mêmes. Donc il y a bien un sujet où il faut, à un moment donné, changer la loi pour se donner les moyens de pouvoir être au rendez-vous, certes des feux, mais aussi des secours aux personnes, où on sait que c'est le plus gros de l'activité des pompiers. Et puis après, je réagissais aussi sur l'appel du ministre de l'Intérieur.
Oui, à libérer les pompiers volontaires,
Eh ouais, mais on l'a pas attendu, Darmanin. Heureusement qu'au mois de juillet, on l'a fait, parce qu'il a fallu assurer, certes, le feu, mais aussi les interventions opérationnelles du quotidien. Je le disais, le secours à personne, les autres feux, etc. Les Girondins, ils aiment cette forêt. Les Girondins, ils aiment la Gironde avec effectivement les plages, la canoë, etc., etc. Et cette forêt qui fait partie du patrimoine girondin. Ben oui, on a réagi pour, à côté de tous les acteurs, être au rendez-vous pour maintenir cette belle forêt. Ben là, elle brûle. Malheureusement, c'est compliqué quand on voit ce que l'on voit à la télévision, ce qu'on attend à la radio. Mais voilà, on a besoin de tout le monde. Il faut que tout le monde soit au rendez-vous. Puis j'allais dire demain, quoi. Il faut
bien sûr. Mais
demain,
attendez, vous avez vu Sylvain comme moi. Aujourd'hui, ça brûle dans le Maine-et-Loire, ça brûle dans le Jura, ça brûlait du côté de l'Isère, c'est-à-dire dans des endroits où habituellement, dans le Morbihan aussi. Alors, ce sont pas des feux et fort heureusement aussi dramatiques des méga feux que ce que vous connaissez en Gironde, mais ça prouve bien aujourd'hui la nécessité de repenser notre territoire, voilà. De repenser le maillage d'intervention.
Et alors, de durcir les
sanctions. Vous savez, c'est comme ceux qui disent oui, mais ça va peut-être pas brûler autant l'année prochaine.
J'en sais rien.
Il y a une nécessité de s'attaquer aux causes et pas aux conséquences.
Oui.
Voilà,
oui.
Depuis longtemps, on cherche une solution. Revenons en amont. Pourquoi on en est arrivé à un réchauffement climatique tel quel? Parce qu'on tire un petit peu trop sur les moyens que nous donne la nature. Faisons preuve un petit peu, chacun de notre façon, d'un petit peu de sobriété dans ce que l'on veut prendre. Et si collectivement on le fait tous un petit peu, et je suis sûr que si on faisait le tour de la table, chacun fait des petits gestes.
Bien sûr.
Et puis on arrivera à mieux faire. Donc arrêtons de dire, il faut mettre beaucoup de moyens pour s'attaquer.
Mais c'est pas incompatible.
Et continuer à faire la même chose et pas changer un petit peu le monde dans lequel on vit. On peut le faire tous ensemble, toujours en vivant bien ensemble.
Mais Sylvain, si vous avez entendu ce qu'a dit Monsieur Allion, on manque d'hommes, de toutes les manières. Donc ça, il faudra quand même avoir une intensification au niveau des moyens humains et des sapeurs-pompiers et des pompiers volontaires à engager, à embaucher, Sylvain. Et on a Marie qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Marie.
Bonjour les grandes gueules.
Bonjour Marie. Bonjour. Aujourd'hui, on n'est pas adapté, nos moyens ne sont pas adaptés à ce qui se passe.
Alors, je pense que globalement, on manque de pompiers. Donc forcément, il y a un problème de moyens. Mais je suis intervenue parce que j'ai entendu dire que les pompiers volontaires étaient indemnisés. Ouh. Non, ils ne sont indemnisés que s'ils ont une intervention. Sinon,
exact.
C'est zéro.
Oui, c'est 8 euros de l'heure au moment où commence l'intervention.
Exactement. Alors, je connais pas le chiffre exact, mais moi, j'ai mon gendre qui est pompier volontaire. Et s'il fait une garde de 24 heures, c'est-à-dire il travaille, il fait une garde, enfin une garde de nuit, il travaille, il fait une garde, il travaille derrière, il touche à rien.
Ah non! Mais justement, aujourd'hui, c'est pour ça, Marie, qu'on se demandait s'il fallait pas repenser aussi ça, ces pompiers volontaires. Qu'on ait une base de volontaires, c'est une chose.
Oui.
Mais peut-être qu'il faut avoir aujourd'hui monté en puissance au niveau des pompiers de métier. À Marseille,
exactement.
Les marins-pompiers, et à Paris, oui. Les pompiers de Paris, ce sont des militaires. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, il faut penser une défense, vraiment une brigade entière des pompiers. On a 251 900 sapeurs-pompiers aujourd'hui. On a 41 800 professionnels, 13 000 militaires, 197 000 sans volontaires. Ce qui veut dire qu'en fait, on s'appuie davantage sur les volontaires. Des volontaires qui sont pas forcément disponibles. Et d'ailleurs, lorsque Gérald Darmanin hier dit aux entreprises, libérez-les, mais les entreprises vont dire, écoutez, d'accord, mais moi j'ai besoin de mon salarié, même si les pompiers ont... Donc finalement, c'est une espèce d'aveu d'échec aussi.
Au mois d'août, la majorité des entreprises sont fermées, quand même.
Non.
Ah, si, il y en a beaucoup.
Si, elle a raison.
Je suis quand même pas...
Oui, mais ça veut dire que ces pompiers volontaires, ils sont peut-être en vacances, ils sont pas sur place, ils sont avec leur famille. Si le type, il est dans l'est de la France avec sa famille et qu'on a besoin de lui en Gironde, je vous en prie, Marie, allez-y.
Je voudrais juste dire aussi que pompiers volontaires, mon genre en a fait suite à un accident de moto et c'est juste pour reconnaissance pour les pompiers. Il aime bien les valeurs défendues par les pompiers, donc il y va. C'est pas une question d'argent, mais il doit poser des jours de congé pour aller se former. C'est parfois le dimanche matin. Il a deux enfants petits.
C'est pas
à côté de chez lui. On leur a promis une caserne. Elle n'est pas construite. Apparemment, elle va finir par se construire. N'oubliez pas toutes les casernes qui se sont fermées, etc., etc. Et aujourd'hui, il intervient comme troisième homme, alors que normalement, en tant que volontaire, et devrait intervenir que comme quatrième homme.
D'accord. C'est un engagement qu'il a fait.
Il ne met pas en cause son engagement. Il est relativement récent.
Ça veut dire quoi, troisième homme et quatrième homme, madame?
C'est-à-dire qu'en fait, il part toujours à trois et normalement, le quatrième reste à la caserne.
D'accord, donc en fait, il va sur les feux, même s'il n'a pas la même formation que le pompier, c'est ça?
Sur les feux, il a une habilitation récente, donc je pense que lui, il ne va pas sur les feux, mais il va sur les secours. Secours aux personnes, secours aux biens, etc.
Il n'y a pas que les feux.
Merci Marie d'avoir vous aussi été avec nous en direct sur MC. Tu vois, je pensais, parce que je te voyais arriver avec ton fils, Kaouter, qui est avec toi, qui a quel âge, Eden?
12 ans.
Aujourd'hui, moi je ne sais pas, mais je me dis, face à cet enjeu climatique, les pompiers, la formation... Ils viennent de temps en temps à l'école. Mais moi, je pense qu'il faudrait, passer. Il faut aller davantage dans les écoles, expliquer les enjeux et dire, plus tard, deviens pompier. Et moi, je pense pas uniquement pompier volontaire. Quand on dit, tu t'engages dans l'armée, l'armée fait régulièrement des campagnes d'engagement. La police fait régulièrement des campagnes d'engagement. Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas véritablement des effectifs de pompiers professionnels?
Il y a une caserne de pompiers. Chaque année, ils ouvrent les portes de la caserne. Mais les gamins, ils s'éclatent et ils disent tous « Ah, moi, un jour, je deviendrai pompier ». Mais ça existe déjà. Alors après, je ne sais pas si ça existe dans toute la France, mais faudrait...
Tu as de façon large, un statut qui existe. Mais en 2003, j'étais RLJC, ce qui s'appelle Réserviste Local à la Jeunesse et à la Citoyenneté. Et notre fonction, c'était de faire la promotion des près de 400 métiers que compose l'armée. Et dedans, tu as effectivement les soldats du feu, et il faut intéresser ces jeunes. Mais tu as également des réservistes militaires, parce que tu as la réserve civile, mais tu as la réserve militaire, des gendarmes, des pompiers, que tu retrouves dans des fonctions régaliennes. Donc oui, il faut redonner cet engagement citoyen à nos jeunes. Pour certains, s'ils font pas grand-chose, peut-être les emmener vers la réserve citoyenne, c'est aussi un premier pas. On t'apprend un peu de discipline, la hiérarchie, le civisme, d'aider ton prochain, d'aider l'autre. Donc c'est peut-être là aussi où on a un vivier.
Je ne suis pas contre l'engagement, mais moi je pense qu'il faut revaloriser ce travail, notamment. Je suis désolée. Moi, quand on me dit c'est une vocation, c'est pas parce que c'est une vocation que tu dois être payé au lance-pierre.
Ah, moi, il y a le feu, je regarde pas si je suis payé.
Mais toi, Edina,
8 euros ou 9
mais il y a des
euros,
gens qui ont des enfants, il faut qu'ils fassent manger,
Tu peux pas tout ramener au revenu. C'est pas possible. L'engagement citoyen, je suis contre les businessmen de la misère. Un moment, si tu t'engages, avec tes tripes, et tu vas.
Et on l'a entendu. Mon propos, considère qu'il faut former
le
pompiers. Oui, parce qu'on me coupe, j'arrive pas.
Vas-y, Philippe Kaouter.
Voilà. Donc, qu'il faut revaloriser ce métier, qu'il faut donner envie à des jeunes, à des enfants, l'accès, parce qu'on ne s'autorise pas. Tu vois, tous les jeunes de quartier dont tu parles, que tu sous-entends, ils ne s'autorisent pas à aller pompiers. Déjà, il faut s'autoriser dans
et
sa
moi,
tête.
Moi, j'y suis allé.
Toi, tu t'es allé.
On a organisé
aujourd'hui, on
un déploiement
pas,
militaire.
Et je considère qu'on doit, que ce métier doit devenir attractif aussi financièrement, parce que les pompiers, comme tous les autres corps de métier, ont des factures à payer, ont des loyers, ont des enfants, ont des taxes à payer comme tout le monde, et qu'on doit aussi valoriser. Moi, je suis désolée. Quand je vois que nos élus, sans faire de la démagogie, quand je vois que nos élus touchent des indemnités qui sont archi confortables, et quand je vois le salaire de soldat du feu, j'ai envie de tomber.
Là,
non, c'est pas la démagogie, c'est la vérité. Excuse-moi, les bons guerriers à la mairie de Marseille qui étaient 4000 euros par mois, s'ils sont que conseillers municipaux, alors qu'un pompier ne les touche pas, à quoi ils servent?
Oui, mais ils ont souvent un autre travail.
Alors, attends, on va écouter Cédric. Cédric, oula.
Des petits aux petits garçons, on leur offre tous un petit camion de pompiers et un casque.
Nous sommes avec Cédric, bonjour.
Bravo, bravo pour ta réflexion.
Cédric.
Oui, bonjour.
Bonjour, Cédric. Pompier volontaire, Cédric.
Ouais, pompier volontaire, non vacciné, donc pour le moment sur le carreau. On
ah, non vacciné, ah oui, vous êtes mis à l'écart, effectivement. Ouais.
Voilà, je suis mis à l'écart, donc c'est pas un problème. Hein. Moi, de toute façon, j'ai 26 ans de botte, je ne compte pas y retourner. Après tout ça, j'ai vite compris un peu comment fonctionnait malheureusement la France. En tant qu'élu, on a de plus.
Oh.
Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais, la question que je voulais aborder, c'était savoir s'il y avait un fichier avec le nombre de pompiers qui seraient disponibles non vaccinés. Et en plus...
On parle de 5000. On parle de 5000 et 200 professionnels.
5000 et 200 professionnels. C'est moche de ne pas les avoir en ce moment. Moi, je suis artisan, je suis à mon compte. J'ai tout à fait le temps d'aller faire des remplacements dans ces secteurs-là. Et à ce jour-là, étant donné que je
suis... Mais si, le pass vaccinal n'existe plus, il peut y aller. Hein.
Non, non, je ne peux pas y aller. Moi, je suis mis à pied au niveau du 10. Je suis mis à pied au niveau du 10. Et le deuxième sujet sur lequel je voulais aborder, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on se plaint qu'on n'a plus de pompiers. Moi, ça fait 26 ans que je vois des pompiers se faire virer parce qu'ils ont une visite médicale avec un IMC au-dessus de 30. Dans certains départements, c'est comme ça. Et ça, ces gens-là, c'est des gens qui sont pleins de bonne volonté et on les empêche de devenir pompiers pour un IMC qui a des fois juste au-dessus ou un léger problème.
Il y a des règles à un moment. Enfin, je veux dire, il faut les respecter. Moi, je suis désolé. Et Cédric, quand je vous entends, mais la solidarité, c'est aussi à un moment prendre ses responsabilités. J'entends... Le côté anti-vax que vous générez dans vos propos, mais là ça va, ça fait plus de 2 ans qu'on a du recul, donc c'est un discours qui est plus audible aujourd'hui. Moi je suis désolé, je peux pas entendre. Moi j'étais réserviste, je peux pas entendre quand on est au service de la nation qu'à ce point on se marginalise et on considère moi je suis pas vacciné,
c'est la faute des autres.
Attendez, putain, on vit dans une société d'égoïstes. Vous avez pas envie de vous faire vacciner, nous appelez pas à la limite, vous voyez, ça m'énerve. Mais franchement, je peux pas cautionner ce discours d'irresponsable en disant oui, mais moi, on m'a pas expliqué. Vous prenez du Doliprane, vous regardez pas les effets secondaires, ou alors vous me les listez tout de suite et je vous respecterai. Mais à un moment, faut arrêter. Vos enfants, ils sont vaccinés. Si vous voulez vivre en société, il faut accepter les règles. Et les règles, c'est aussi, moi, mes gamins, si j'ai des principes comme vous, je les envoie pas à l'école, je les fais pas vacciner, je leur mets pas les 11 vaccins dans le bras, je m'en occupe moi et je demande pas à la société de s'en occuper. Mais allez au bout de vos principes, bordel. Moi, franchement, je peux plus entendre ce genre de discours.
Mais
j'ai le droit de dire que ça m'insupporte.
À ce moment-là, il doit comme lui-même ne respecte pas les règles. Il
enlève des mômes de l'école.
Et pas dire c'est la faute des autres.
Attends.
Si on ne prend pas.
Non, tu veux, moi ce que je comprends pas, c'est que tu vois un pompier qui va sur
et en plus artisan.
Alors vas-y.
Un pompier qui va sur le feu comme ça, même s'il n'est pas vacciné, potentiellement, il va contaminer un arbre, un écureuil.
Non, mais c'est pas ça. Ils ont fixé des règles.
Oui.
Mais si demain tu contamines tous les pompiers qui sont sur le feu, tout le monde est en quarantaine, tout le monde est malade.
Mais attends. Mais ils sont vaccinés les autres pompiers. Donc ils sont protégés, donc il faut arrêter.
Puisque même quand tu as été vacciné, tu peux l'avoir.
Oui, moi-même, je suis vacciné, je l'ai attrapé, toi aussi. Oui. Mais voilà, donc
je
veux dire, à un moment donné.
Je supporte
mais justement,
plus
le vaccin, excuse-moi. Moi, au début, quand j'ai commencé les GG, j'étais pas vacciné, j'avais hyper peur. C'est le nombre de morts autour de moi qui ont commencé d'ailleurs immédiatement, qui à un moment donné, j'ai eu un déclic et je l'ai fait. Je suis désolée, c'est pas pour autant que je suis protégée.
Donc
je
il faut réintégrer les pompiers non vaccinés.
Bien sûr qu'il faut les réintégrer, les pompiers, les infirmières, les soignants, tout le monde.
Mais si, Cédric, il a été avec nous. Merci, ça a été un moment un peu chaud avec la Stéphane Manigold, a-t-on les moyens de lutter aujourd'hui, oui ou non, contre ces incendies? Quelle est votre perception face à ces méga-feux? Non, on est en dessous, c'est ce que vous nous dites, on n'a pas les moyens à 70%. Dans un instant, avec Kaouter Ben Mohamed, avec Elina Dumont et avec Stéphane Manigold, le monde de Macron 2, et on va revenir sur cette opération de testing sur les plages privées faites par SOS Racisme. Est-ce que les plages privées, les établissements de nuit sont racistes? Visiblement, oui. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Gigi, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct comme tous les jours de 9h à midi. Aujourd'hui, nous sommes avec Elina Dumont, intervenante sociale, Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, et le restaurateur Stéphane Manigold. 10h, on parlera du cannabis avec cette tribune de 31 sénateurs. Ils alertent sur la situation du cannabis en France. Ils disent, la répression, c'est pas compliqué. D'année en année, on voit qu'on s'en sort pas. On a toujours autant de gens qui fument. Les trafics, ça continue. Ils demandent la légalisation. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes déposer une proposition de loi pour aboutir à la légalisation. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Doit-on légaliser? Éternel débat. Mais ça permet régulièrement de voir quel est le pouls de l'opinion aussi. Je crois qu'on était à 40-45% des Français qui étaient pour, et on en parlera avec vous tout à l'heure au 32-16. On y va pour le monde de Macron 2.
RMC, les grandes gueules.
C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les 5 années qui viennent.
Le monde de Macron.
On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
On a l'association SOS Racisme qui dénonce la discrimination à l'entrée des plages privées, notamment de la Côte d'Azur. Elle a réalisé un testing sur plusieurs plages. L'opération a été filmée, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Elle a été mise en ligne par le site Loopsider et relayée par Le Monde. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un couple noir qui rentre dans une plage de la Côte d'Azur qui demande un matelas. Non monsieur, désolé, on est complet. Non messieurs, dames, parce que c'est un couple, on est complet. Un couple maghrébin qui arrive un peu après. Non désolé, on est complet. Le même jour, au même moment, arrive un troisième couple, un couple blanc qui se présente. Et là, miracle, il y a des matelas disponibles. Alors, du côté des associations, des élus antiracistes, bien sûr, on dénonce un racisme structurel qui perdure, dit-on. La justice doit maintenant embrayer le pas, lourdement sanctionner ces plages qui, finalement, ont été identifiées. Elles sont du côté de la Côte d'Azur et de Juan-les-Pins. Elles se défendent, bien sûr on prend un avocat et on expliquera précisément dans les jours à venir. Alors, est-ce qu'on doit s'étonner alors, je vais vous dire très franchement, moi, j'ai été étonné. Mais tu sais pourquoi? Parce que ces plages, je les connais, je les vois.
Est-ce que je me suis dit?
Bon, certaines, j'y vais, et quand je regarde les matelas autour de moi, et qui est là, il y a de la diversité. Et donc je me dis, qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi cette plage en particulier? C'est un problème avec cette plage ou ces gérants, parce que moi sur les plages de Nice privées ou publiques, la diversité elle est là, et sur les plages privées, elle y est. Enfin, j'ai jamais vu.
Je ne crois pas qu'il
fallait s'étonner. J'étais encore dimanche, samedi dernier, j'avais des gens de toutes les couleurs autour de moi.
Moi, je pense qu'il ne faut pas s'étonner, mais qu'il faille s'indigner en fait. Tu vois, moi j'ai un exemple qui m'est resté très prégnant avec mon fils.
Oui.
En 2013, capitale de la culture, au J1, donc c'est en face de chez moi, j'habite sur le port, il y avait des activités artistiques. Le J1, c'est un espace qui donne sur le port autonome qui avait été mis à disposition. On rentre faire une activité, ils nous disent qu'il n'y a pas de place. Donc je demande un rendez-vous pour plus tard dans l'après-midi. On me dit que tous les créneaux sont complets. En face, il y avait un photomaton noir et blanc, spécial, pareil, tu vois, qui faisait des photos un peu artistiques. On y rentre avec mon fils, mais les personnes ne nous ont pas vu rentrer dans le photomaton. Elles pensent qu'on est parti. Pendant que tu es dans le photomaton, on entend une famille arriver. Ils étaient 6 enfants et 2 parents. On les a laissés rentrer, ils ont fait de l'activité. Je suis sortie, j'ai hurlé comme une folle. Parce que ça, c'est violent.
Non, ils n'ont pas dû qu'ils soient rentrés après.
Tu penses que c'est parce que tu t'appelles Kaouter Ben Mohamed?
Quelle est l'autre raison? Tu as une femme qui est avec son enfant. On te dit, madame, nous n'avons plus de place, ni maintenant, ni dans un quart d'heure. Il y avait des roulements tous les quarts d'heure, jusqu'à la fin de la journée. Tu vas faire ta photo au photomaton, tu prends les poses avec ton petit qui est petit, tu règles le truc, le rideau est tiré. Et
les autres, ils rentrent.
3 minutes après, ils rentrent, ils sont 8. Excuse-moi du peu, ils rentrent tout de suite. Donc, il y a un problème. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est pas, malheureusement, moi, encore une fois, je le répète, il y en a une qui m'a un peu énervée hier. Vous rappelez votre nom et votre prénom? Oui, je m'appelle Kaouter Ben Mohamed. C'est pas un prénom et un nom qui sont neutres. D'abord, la moitié de ma vie, on m'a pris pour un garçon, parce qu'on croit que Mohamed, c'est mon nom de famille, Kaouter Ben. Mon prénom, pardon.
Et là, dans la vidéo, ils disaient même pas leur nom.
Non, c'est au faciès. Voilà. Et en fait, moi, je l'ai vécu au travail.
Jolie, en tout cas, la jeune mère avec
c'est pas une question de beauté, c'est une question de faciès.
Moi, j'aime les jolies femmes.
Oui, les gens qui sont racistes, c'est pas une question de beauté, c'est des gens qui sont racistes.
Attends, moi j'ai quelque chose à dire. Ouais. Alors, parce que évidemment, pour avoir fait beaucoup de documentaires, je ne vous cache pas que j'ai travaillé avec Loopsider, j'espère que je le dis bien. C'est une équipe sérieuse en principe, donc je vois pas pourquoi.
Et SOS Racisme, voilà. Le testing.
Bon, SOS Racisme, après, on peut en discuter, mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, ce qui me fait rire, c'est qu'ils veulent porter plainte pour un transat. Alors déjà, par rapport à la discrimination qu'il y a sur, pour le logement et pour le travail, on n'arrive même pas à bout dans les prud'hommes
dans
et
les
à prouver. Alors là, l'histoire des transats, là, je rigole, là.
Ouais, non, mais c'est...
Donc, Mais
non,
mais
est-ce qu'il y a un racisme des établissements privés déjà, comme ça, des établissements un peu de luxe
c'est déjà, Alain, je tiens à rappeler que le racisme n'a pas sa place en France. Mais le racisme,
enfin, ouais, il est là.
Les racismes sous toutes ses formes. Ouais, bon. Et SOS Racisme, il serait temps qu'ils mettent un S à racisme pour qu'il soit crédible. Ensuite, il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps sur un établissement parisien qui, par le témoignage d'un vigile, a été accusé de racisme. Moi, je connais l'un des dirigeants de la boîte. Ça fait 25 ans qu'il milite contre le racisme. Ça fait 25 ans qu'il milite contre toute forme d'exclusion. Et si à un moment, ces testings qui sont faits en disant ben on avait demandé deux places, on les a pas eues, mais il y a une famille avec quatre qui sont arrivées, ben il faut savoir comment ça fonctionne une plage. Tu peux avoir 4 places disponibles et tu dis moi je réserve 4 places et tu dis je suis complet pour 2 mais j'ai 4 places et
c'est
je ne donne
ça,
pas 4 places
pas,
donc si attends. Tu veux si
mais
tu veux
pas
un
ça,
moment mais
non
mais
je pas de ça
si tu veux le
ce genre de
testing
attends
moi ce genre de testing en fait je tu sais pas dans quelles conditions c'est fait.
C'est ça, vous
tu sais pas, tu sais pas comment, tu vois un bout de quelque chose. Moi, je suis assez confiant sur les chefs d'entreprise. Le racisme en 2022, il existe encore.
Tu crois qu'il y a
malheureusement.
Tu penses qu'il y a de la manip?
Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que, oui, peut-être. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais?
Quand là, la démonstration, elle est assez claire. Couple noir, couple maghrébin, couple blanc. Ouais. Et tout s'enchaîne.
Mais, faisons constater dans ce cas-là par voie d'huissier. Ayons quelqu'un d'impartial, qui va constater cela. Moi, s'il y a, vraiment du racisme, il faut qu'il soit condamné. En revanche, quand tu es traité de raciste derrière et que, à tort, et que c'est de la diffamation, les condamnations sont faibles. Et donc, si tu veux lutter efficacement contre le racisme, d'un côté comme de l'autre, tu dois condamner.
Pour toi, la démonstration n'est pas assez probante de la plage.
Mais on peut t'en faire, mais moi je peux t'en faire sans parler de couleur. T'as vu ma tête, je veux dire, à un moment, j'étais il y a pas très longtemps dans un bar réputé parisien, ils m'ont pas reconnu entre guillemets, parce que je connais quand même tous les professionnels du métier, et on me fout, tu vois, au bar, au niveau des toilettes, là où il y a personne, et on était trois. Moi ça m'a fait marrer, franchement, parce que je trouvais ça, mais c'est l'ancien monde, et ceux qui
Tu n'as pas le droit de rentrer dans un métier. C'est quand tu as la gueule que j'ai moi et pas la tienne, parce que toi, tu
veux ta gueule. T'as vu la tête de métèque que j'ai.
T'es juste un peu bronzé, là, c'est tout. T'as une tête de blanc, mais blanc.
Lequel elle a plus la tête de métèque? Carouter ou manigold?
Et en plus, c'est peut-être moi qui a fait le plus de conneries dans ma vie, c'est ça le pire, et je suis blanche. Et tu sais, pour rejoindre ce que tu dis, tu sais, il y a un grand restaurant, je ne vais pas citer son nom, tu sais ce qu'ils font, je ne sais pas comment t'expliquer, mais ils sentent, alors là c'est que les blancs, là c'est pas une histoire, t'es black, t'es, quand ils sentent que tu viens juste pour une omelette, ils te mettent au fond ou à l'étage, et quand ils voient que c'est de la bourgeoisie qui arrive, et là ils te mettent bien,
c'est pas la même chose,
et là
c'est un
commerce, là, c'est pas,
ouais, tu sais
là,
quand j'avais 18 ans, je vais avec mon
c'est
ex patron
Jeannot,
à qui je rends hommage, je sais pas s'il est encore vivant, je travaillais chez lui quand j'étais étudiante, il avait une pizzeria en face du lycée où j'étais, et donc il m'invite avec sa femme Marie-France au restaurant pour mes 18 ans après le taf, et on va à l'Escale Borély, donc sur la plage, front de mer, etc. C'était un jour de semaine, le restaurant était vide, il y avait que nous. Arrive un jeune issu de l'immigration, maghrébin, quoi, tu vois, qui devait être français en plus, avec sa copine. On lui a dit, monsieur, l'établissement est complet. Je suis restée, alors j'étais beaucoup plus calme avant, donc je me suis tue. Si ça arrive maintenant, je t'appelle la police, je te fais un scandale, je te filme, je te mets sur Facebook, etc., etc. Mais ça existe. Non, mais il ne faut pas nier. Tu vois, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit, si SOS Racisme veut être crédible, il faut rajouter un S. Je te soutiens sur ça.
Mais le racisme anti-blanc, il existe.
Il ne faut pas nier toutes les formes de racisme et de rejet qu'on a encore aujourd'hui dans ce pays, qui n'est pas fort heureusement, j'espère, systématique, mais qui existe. Mon kiné, Philippe, m'a expliqué un jour, il s'est lancé dans l'immobilier là, pour la fin de sa carrière, et un jour, il a un client qui est black, et il dit qu'il y a un appartement à louer. Et donc, ils vont le visiter ensemble et tout, et tout de suite, sans garantie, sans rien, parce que c'est son client, il lui loue. Et le gars s'est mis à pleurer. Il lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, monsieur, c'est la première fois qu'on me fait confiance comme ça. Et que, voilà, parce que d'habitude, quand on me voit arriver, ça se passe bien au téléphone. Quand on voit ma couleur, on dit que l'appartement est loué. Donc, ça existe.
Malheureusement,
ça n'existe pas.
Attends, voilà. Stéphane, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas.
Voilà.
Je te dis juste, et si tu écoutes mon préambule, je condamne évidemment toute forme de racisme.
Mais
et
tu
de
vas avoir tous les tenants et les aboutissants.
Exactement. Et je vais te donner un autre exemple. Moi, j'ai aussi grandi, tu vois, dans un beau quartier qui s'appelle la Zup de Mulhouse, qui faisait partie des 10 quartiers, des villes les plus dangereuses en matière d'un camp juvénile en Europe. J'ai un ami qui s'appelle Kamel Bouladid. Déjà, tu pars comme toi, si on reste dans les clichés, tu pars avec un handicap sérieux. Il a commencé, il a fait des pizzas dans son box. Il s'est affranchi de tous ces trucs-là. Oui, vous me refusez parce que je suis raciste. Lui, il a avancé. Et aujourd'hui, il a 80 magasins en France. Il emploie je ne sais combien de milliers de personnes.
Oui, mais sauf que là, c'est pas ça. Sauf que là, c'est pas ça. Là, c'est une plage qui trois couples différents, à deux couples dit non et un couple dit oui.
Mais moi je veux bien avec SOS
noir,
racisme, moi je veux
maghrébin
bien avec eux,
et ensuite blanc.
Je veux bien faire ces testings avec eux parce que je connais ce métier. Quand tu as par exemple effectivement, tu as six transats, tu dis voilà, ces transats là, je les consacre pour six personnes. Si tu viens à trois, ils vont dire non, on est complet.
Mais pourquoi ils disent au couple blanc, ils disent OK. Au couple blanc, ils disent OK, au couple noir et maghrébin, ils disent non.
Je veux bien constater parce que si c'est le cas, alors je le condamne, mais je veux bien les accompagner dans ces testings pour voir comment c'est fait, parce que là je pense qu'ils sont plus là pour faire du buzz.
Il y a juste une chose. Demain on posera la question à Dominique Sopo, il sera l'invité des grandes gueules demain, le président d'SOS Racisme. Il sera avec nous demain à midi.
Est-ce que vous allez réussir à lui faire mettre un S à racisme?
Suite de cette affaire, on lui posera la question. Dans un instant avec les grandes gueules, cannabis doit-on légaliser? C'est une tribune qui est signée par 31 sénateurs. Ils alertent, ils vont faire une proposition de loi, ils veulent la légalisation du cannabis. Bis pour au compte, 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.